Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Vous avez entendu ces textes particuliers qui reproduisent le dernier dimanche de l'année. Dans la révélation de la religion, il nous est dit que la vie terrestre va s'achever pour s'ouvrir sur une vie principalement spirituelle telle qu'elle a été créée par Dieu. Est-ce que cela signifie que la vie terrestre aura été une parenthèse? Non. Mais cette vie terrestre sera transformée puisque après des siècles de vie, nous serons appelés à avoir une vie spirituelle par l'absence d'union corporelle et de mariage après l'Apocalypse, c'est-à-dire la fin de cette vie telle que nous la connaissons par le feu, un feu final qui brûlera toute la surface de la terre. Ceci est un enseignement très fort et qui a fait beaucoup écrire et qui impressionne plus ou moins, mais comme à différentes époques les hommes considéraient qu'ils étaient déjà à la fin des temps, ce n'est pas parce que nous avons des troubles, comme nous en avons pu en avoir dans les siècles passés en France, que nous sommes forcément à la fin, à l'anarchie, à une catastrophe et à un effondrement social, au point que la vie s'arrêterait et que notre Seigneur Jésus-Christ viendrait en gloire. Pourquoi ? Eh bien parce que cela justement a déjà été annoncé plusieurs fois. Et nous sommes très curieux de ce qui va mal. Les journalistes actuellement s'en donnent à cœur joie, puisqu'il y a des événements assez durs en France, et cela nous intéresse de la même façon qu'il y a des embouteillages de curiosité. Savez-vous ce que c'est que des embouteillages de curiosité? Vous avez un accident sur le bord de l'autoroute, ou même deux voitures qui se sont à peine touchées, mais avec quelques morceaux de pare-choc en plastique. Pas forcément un accident grave. Et alors que vous avez trois voies libres, eh bien les personnes vont freiner, regarder et accélérer. Si l'accident est très grave, alors là, non seulement les gens vont freiner, mais vont bien regarder et puis ensuite partir. Alors même que l'autoroute aurait été libérée et qu'il y a deux ou trois voies et que les personnes peuvent passer. Ainsi donc, aujourd'hui, alors même que nous avions fêté Sainte-Eugène, Sainte-Cécile, et que le dernier dimanche de la Pentecôte avait laissé la place à cette sainte martyre et à sa profonde espérance, parce que tous ceux qui meurent dans la persécution choisissent la vie, choisissent le bonheur éternel. Elle a 23 ans, elle est d'une grande famille romaine, patricienne, et on lui demande de sacrifier à la statue de l'empereur, au dieu de l'empire romain, et elle refuse, malgré la condamnation à mort totalement disproportionnée. Mais alors qu'elle pourrait verser quelques grains d'encens, sans avoir de pratique religieuse païenne, elle refuse et elle est mise à mort. Mais cette mort, comme les bienheureuses carmélites de Compiègne, qui étaient considérées comme des ennemis de la Révolution, alors qu'on est à la fin de la Révolution sanglante, on est dans les années 1794, c'est la Grande Terreur avant l'effondrement de Robespierre et de ses amis, eh bien, elles sont mises à mort. Mais elles vont chanter le Te Deum, elles vont vers Dieu, elles vont vers le Christ, et cette vie terrestre pour elles s'arrête là. De la même façon, pour ceux qui aiment beaucoup les événements graves et les annonces de catastrophes, ils oublient que dans leur famille, que pour eux-mêmes, une maladie, un accident, et c'est la fin de cette vie terrestre. C'est la fin de notre petit monde. Ainsi, ce qui nous est promis dépasse, bien entendu, les événements de ce monde, les événements d'une société, car ils sont à terme, pour nous, personnels. Notre salut est d'abord personnel. Lorsque nous mourrons, que nous mourions à jeunes ou très âgés, nous sommes jugés par Dieu et nous recommandons à Dieu d'ailleurs la vie des innocents, ceux qui meurent avant l'âge de raison et qui n'ont pas reçu la grâce du baptême. Nous ne savons pas quel est l'état de leur conscience, comment leur intelligence et leur volonté ont été éclairées pour se tourner vers Dieu. L'Église, de manière très sage depuis des siècles, enseigne que l'on donne le baptême et que lorsque le baptême n'a pas été donné alors qu'on est inconscient, eh bien, on attend. Il y a eu une prudence encore plus forte en 1992, dans le catéchisme de l'Église catholique, où on ne dit pas que ces âmes vont directement vers Dieu, parce que la nature humaine a été privée de cette lumière divine, de cette connaissance divine, par le péché originel. Et la Vierge Marie vient nous rappeler, dans son Immaculée Conception, cet état particulier de l'âme humaine. Nous sommes de purs esprits de par notre âme, nous sommes unis à un corps de par la volonté divine qui parachève sa création. Et comment nous aimons? Quel est l'état de notre conscience? Nous voyons bien que nous sommes différents du règne animal. Et Dieu nous demande de rendre compte de cette intelligence, de cette volonté. Et même pour ceux qui se disent que certains manquent tellement d'intelligence qu'ils sont mauvais, qu'ils sont bêtes, idiots, eh bien, ce n'est pas l'intelligence spéculative qui fait la vie humaine, c'est bien les choix libres et la volonté du bien. Alors, en ce premier dimanche de l'année liturgique, les prêtres, dans leur bréviaire, vont relire la Genèse, vont relire ces siècles qui nous séparent du premier homme, de la première humanité. Et le pape Pie XII rappelait que l'humanité est tirée d'un couple unique, que nous ne sommes pas des singes humanisés, spiritualisés à gauche, à droite, mais que nous avons une origine humaine commune. Et cela, nous avons du mal maintenant à le dire, puisque cela est repoussé dans l'enseignement, dans la vie sociale commune. Que nous soyons tous issus du même sang, du même ADN, que nous ayons comme ancêtres ceux qui ont vécu dans la vallée du Tigre et de l'Euphrate, tout cela s'est perdu dans les siècles, mais pourtant nous sommes bien là, nous sommes des peuples différents qui se sont stabilisés, mais nous avons tous une intelligence, une volonté, une conscience. Et Dieu nous avertit que toute cette histoire humaine, que toute cette géopolitique, que l'Europe, l'Afrique, l'Australie, l'Amérique, l'Asie, tout cela, à un moment donné, aura un terme parce que nous sommes des êtres spirituels et que nous allons vers un terme et que nous serons jugés sur le bien et sur le mal. Voilà pourquoi, aujourd'hui même, et dans notre souci de notre petit pays, lorsque nous voulons la prospérité, le bonheur, la santé, il y a quelque chose qui nous dépasse complètement, c'est le plan du salut par rapport actuellement à 7 milliards d'âmes. Comment Dieu va-t-il susciter dans les âmes, chez les hommes, chez les femmes, chez les enfants, cette religion, cette attention à notre origine? Pourquoi prions-nous? Est-ce que nous croyons vraiment que le Créateur est un Père intelligent? Est-ce que nous croyons vraiment que c'est sa pensée éternelle, son Verbe, qui s'est fait un enfant? Des peuples avec des cultures éloignées de l'incarnation ont fini par saisir cette incarnation et croire que Dieu s'est fait homme, d'une femme. Et donc, alors que nous allons vers le 8 décembre, vers cette fête de l'Immaculée Conception, cette femme, à de nombreuses reprises, est apparue alors qu'elle a vécu il y a 2000 ans, à divers endroits, pour nous parler de cette religion, pour nous parler de cette incarnation, et pour nous parler de l'amour de Dieu. Que ce soit rue du Bac, à Paris, à Lourdes, à la Salette, près de Grenoble, à Fatima, à Akita, au Japon, en Afrique, dans différents lieux qui ont été reconnus de manière prudente par des apôtres, des successeurs des apôtres, des évêques. Et donc nous, ce soir, dans l'obscurité de ce mois de décembre, lorsque nous rentrerons chez nous, à notre prière du soir, nous pourrons nous dire « Mais Seigneur, en quoi je crois ? Jésus, vous êtes fait homme. Marie, vous êtes la maman de Jésus. Je suis en train de parler à qui ? Je suis en train de parler à Dieu, à ses amis. Et quelle est la conséquence pour moi ? Saint Paul nous dit de vivre dans la justice et la vérité et la pureté. Alors nous avons une intention en effet plus particulière pour notre société. Pour tous ces hommes, ces femmes qui sont inquiets en ce moment en France, mais est-ce qu'ils prient? Est-ce qu'ils croient en Dieu? Est-ce qu'ils se rassemblent pour prier Dieu le dimanche? Qu'est-ce qu'ils ont fait de leur famille? Qu'est-ce qu'ils ont fait de leurs parents? Qu'est-ce qu'ils ont fait de leurs enfants? C'est bien plus important que le pouvoir d'achat. Et tout cela, voyez-vous, en ce premier dimanche de l'Avent, bien sûr, il est important de vivre en société, d'avoir une bonne économie et une prospérité. Mais tout commence par la reconnaissance de ceux qui nous aiment, qui nous entourent, avec leurs qualités, leurs vertus, leurs péchés, pour vivre avec eux et pour porter nos joies et porter nos croix. Et Dieu s'est fait homme pour cela. Il l'a annoncé au peuple juif pendant des siècles et nous allons l'attendre pendant 4 dimanches. Ce Dieu qui s'est fait homme de la Vierge Marie. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.